Trois lettres qui sèment la discorde, Z, N, T. Depuis le 1er janvier, les agriculteurs doivent respecter des zones de non-traitement entre culture et habitation. Lors de la pulvérisation de pesticides, la FNSEA exige un moratoire sur ce dispositif qui suscite la réprobation des agriculteurs comme celle des défenseurs de l'environnement. Je suis en ligne ce matin avec le représentant de la FNSEA dans la région. Bonjour Philippe Jougla.
Bonjour.
Vous êtes président de la FRSEA, Fédération régionale des syndicats exploitants agricoles Occitanie, et vous êtes éleveur dans le Tarn, je crois, hein, avec des brebis laitières et des vaches allaitantes, on est d'accord ?
Oui.
Et pour ces bêtes, vous exploitez 225 hectares de céréales et donc à ce titre, comme les 60 000 agriculteurs que compte la région, vous êtes concerné par les ZNT, ces fameuses zones de non-traitement qui créent la discorde. Alors la crispation, je vais le rappeler, vient d'un décret qui a été paru au journal officiel le 29 décembre. Il oblige notamment les agriculteurs à respecter des distances minimales entre les zones de traitement et les zones d'habitation, une espèce de zone de distance de sécurité, c'est 20 mètres incompressibles sur les produits les plus préoccupants pour la santé, 10 mètres pour les cultures hôtes, 5 mètres pour les autres, en particulier les cultures céréalières. Philippe Jougla, c'est quoi le problème avec ces ZNT ? D'un point de vue usager, qu'il y ait un périmètre de sécurité, ça semble plutôt sage, non ?
Le problème, il est double. Il est sur l'existence de ce périmètre et sur la date d'application.
Ouais.
Si je commence sur la date d'application, un texte signé le 27 décembre, donc paru le 29, applicable le 31, deux jours plus tard, c'est impossible à réaliser pour les agriculteurs. On a engagé des cultures à l'automne, on va encore en ressemer au printemps, et puis on a toutes les vignes et tous les arbres fruitiers, sur lequel il faut terminer la campagne en cours. Donc, première chose, le délai. La deuxième, vous posez la question sur les distances. On est conscient qu'il faut faire extrêmement attention avec les produits phytosanitaires, mais ce que nous voulons, ce que nous avons essayé d'expliquer au gouvernement, c'est que plus que des distances qui sont bêtes et méchantes, on souhaitait travailler sur des usages qui permettent de limiter les risques, de limiter les dérives, mais on n'a pas forcément été entendu sur ce point-là.
Et ça serait quoi des usages qui permettraient de limiter les risques et les dérives ?
C'est 5-10 mètres, pourquoi pas dans une utilisation sans aucune pratique vertueuse. Mais on a dans nos pulvérisateurs, donc dans les outils qu'on utilise pour passer les phytos, on a des buses, donc ce qui sert à pulvériser, qui permet de faire un bien meilleur travail et de limiter vraiment l'application aux végétaux qui en ont besoin.
Mm-hmm.
Et donc ce qu'on souhaite dans ces cas-là, c'est pouvoir aller jusqu'au bout de la culture.
Avec ces buses qui sont des engins de précision, c'est ça que vous nous dites ?
Oui.
Des engins de précision. Vous avez parlé du délai et d'une forme de précipitation, en fait, avec ce... C'est vrai que le décret est paru au journal officiel le 29 décembre et puis il est effectif trois jours plus tard. Pourquoi cette précipitation, selon vous ?
Le ministre que j'ai interrogé là-dessus répond conseil. Donc ça, c'est une excuse d'un politique qui ne veut pas prendre ses responsabilités. J'ai pas de réponse directe, vraiment précise à donner là-dessus. Je pense volonté du politique de tourner la page sur une décision, vous le disiez, qui ne convient ni aux agriculteurs ni aux anti-pesticides. Donc la volonté, je pense, pour les politiques de mettre ça sous le tapis, de passer à autre chose.
Je ne vous entends plus.
Oui, non, pardon, j'avais fini ma phrase.
Ah, pardon. Dans les consultations, parce qu'il y a eu une large consultation de la population en préalable à cette décision prise par le gouvernement, le mot poison revient tout de même sur dans les contributions, poison par rapport aux produits. Comment vous le recevez, ce mot ?
Mal forcément, une bataille d'image qui a été extrêmement violente. La réalité, c'est qu'on utilise de la chimie pour protéger les cultures. Alors certes, quand on protège les cultures, c'est pour éliminer des parasites, voilà, ou des plantes qui sont invasives. Mais de la même façon que pour mes animaux, j'utilise des antibiotiques, que pour me soigner, j'utilise des médicaments. En fait, on est sur cette même sur cette même chose. Et plus que de poison, c'est la dose qui fait le danger, et pas forcément le produit quand il est bien utilisé.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on déresponsabilise les agriculteurs, qu'on leur fait pas confiance?
Oui, effectivement, derrière d'imposer une distance qui est fixe, voilà, sans rien du tout lié à la pratique, c'est faire des applications, enfin faire des textes qui soient facilement applicables, facilement sanctionnables, mais très loin de la réalité de ce qu'on peut pratiquer avec la façon dont on travaille, ce qu'on connaît de nos champs et des plantes qui y poussent. Oui, c'est une forme de déconsidération pour notre métier.
Est-ce que vous allez être impacté? Vous avez donc des cultures, 225 hectares de céréales pour nourrir vos bêtes. Est-ce ils vont être impactés? Vous avez une idée de la proportion qui va être impactée?
Ouais, pardon, je précise, sur les 225 hectares, j'ai quand même beaucoup d'herbes pour faire
D'accord,
manger,
ouais.
brouter mes brebis, mes vaches. Donc j'ai plutôt une soixantaine d'hectares de céréales. Ce que je comptais là rapidement hier en triant, c'est que j'ai je suis en zone montagne. Je n'ai que 7 maisons qui sont sur mon exploitation, enfin sur autour des
Oui,
travail.
oui.
Donc ça me fait à peu près entre 6 et 7 hectares.
Si c'est 7 hectares de perdu, j'ai interrogé un agriculteur récemment qui me disait que ce décret, c'était une forme d'atteinte au droit de propriété. Il mettait effectivement en cause le fait qu'on perdait de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors auparavant, si je reprends mon exemple, mais pour le généraliser, vous pouvez considérer que je suis peu concerné ou peu touché par rapport à d'autres secteurs, parce que donc dans une zone montagne, on a été très peu impacté par l'étalement urbain, mais les fermes, enfin les maisons qui sont autour de ma ferme, sont des habitats très anciens qui sont souvent protégés par le relief et par des haies. Et le souci principal, là où ça impacte fortement au-delà de 10 ou 15% des surfaces, c'est en zone périurbaine où se sont construits
Ah oui.
des lotissements, des villas au milieu des champs. Et là, on a véritablement un problème de réciprocité. Vous voyez, avant de parler des questions de droits de propriété, il y a aussi ces relations avec des villes qui se sont étalées, qui sont au milieu des champs et sur lesquelles les agriculteurs considèrent qu'il y avait une façon de fonctionner il y a 30 ou 50 ans et que c'est la ville qui est venue à eux
Oui.
et c'est pas forcément à nous, les agriculteurs, de nous adapter à cet étalement urbain.
Eh bien, vous faites bien de faire cette précision. Le même agriculteur dont je vous parlais me disait que les agriculteurs n'étaient pas des mauvais bougres en quelque sorte, hein, et que les bandes embourbées autour des cours d'eau qui vous avaient été demandées il y a quelque temps, ça semblait logique. Le cours d'eau, me disait-il, était là avant nous. Là, non, puisque si un maire, comme vous me le dites, décide de construire près d'un champ, il sait ce qu'il fait, hein, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, et dans les questions de délai que nous souhaitons vivement obtenir pour la mise en place de ces mesures,
Ce moratoire, hein.
on souhaite aussi, pardon, utiliser ces délais pour reparler d'urbanisme que ce soit très clair et dans les actes que les projets d'urbanisme intègre ces notions de protection et de séparation des vides et des champs.
Alors, on ne l'a pas dit, mais tout de même, hein, vous demandez un moratoire à la FNSEA, FRSEA que vous représentez. Il y a tout de même dans ce décret sur ces zones de non-traitement dont nous parlons avec vous ce matin, il donne la possibilité au préfet de valider, après concertation entre élus, riverains et agriculteurs, des chartes départementales. Un peu de cas par cas est tout de même possible, non ?
Oui, alors on a travaillé sur ces chartes au cours de l'année 2019. On a, dans un certain nombre de départements, et c'est le cas dans le Tarn, signé ces chartes avant que le texte soit publié, pour aussi faire la démonstration qu'au local, on était capable de parler avec tous les partenaires de la ruralité, les maires, les départements, les associations de consommateurs, et tous ceux qui travaillent ou qui vivent à proximité de nos champs. Donc ça, on l'a fait. Le souci, c'est que le texte prévoit un certain nombre de passages obligés dans nos chartes et surtout une procédure d'agrément qui va prendre au minimum 4 à 6 mois. Et donc, ce qu'on demande, c'est que ce délai-là, un moratoire pour arriver au bout de l'application, enfin de la signature de ces chartes.
Et pouvoir avoir le temps de vous retourner. Est-ce qu'il est prévu une indemnisation pour les agriculteurs qui se voient réduire leurs parcelles ?
Aujourd'hui, non. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Hein. Vous disiez, c'est un recul de nos surfaces de production, donc sur lequel on va à minima demander une réduction des impôts fonciers qui pèsent dessus. Mais au-delà, la question effectivement de l'indemnisation de surfaces en non-production va très certainement se poser.
Alors on l'a dit, hein, ça ne fait pas l'unanimité cette mesure de zone de non-traitement du côté agriculteur, on le comprend bien avec votre témoignage, ça ne fait pas l'unanimité du côté association, aussi bien Génération Future que les maires anti-pesticides, que Nous voulons des coquelicots dénoncent ces ZNT, je cite, « ridicule jusqu'au bout », disent Nous voulons des coquelicots. Nos belles autorités imposent donc une distance dérisoire d'épandage des pesticides par rapport aux habitations, une pure folie. Comment est-ce qu'on va rétablir la paix dans les campagnes, Philippe Jouglin ?
Nous, ce que nous proposons, c'est la science, et d'abord la science, ou rien que la science. L'ANSES doit faire un certain nombre de recommandations donc, sur les outils et les techniques à utiliser pour limiter effectivement la dérive et la propagation des phytos. L'ANSES doit aussi déterminer quels sont les produits les plus dangereux. Rappeler quand même que tous ces produits sont autorisés au plan européen et au plan national, sont utilisés par tous nos voisins et concurrents partout en Europe. Essayons aussi un petit peu de garder notre calme.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les produits sont autorisés, soit les produits sont autorisés et ils ont une dangerosité limitée, soit ils sont interdits parce qu'ils sont réellement dangereux, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, je voulais vous parler d'un exemple maintenant qui a un peu plus d'une quinzaine d'années. En viticulture, on utilisait de l'arsenite de soude, quelque chose extrêmement utile pour lutter contre une maladie de la vigne donc qui se développe l'hiver. Or, il y a de l'arsenic dedans et il est apparu au bout d'une vingtaine d'années d'utilisation que ce produit était extrêmement dangereux pour les utilisateurs, pour les humains. On l'a arrêté en moins de 2 ans, en 18 mois, il a été retiré de la vente et de l'utilisation. Donc quand c'est dangereux, on est effectivement capable de prendre les mesures. Derrière, ça a été compliqué, ça reste compliqué parce qu'on n'a pas d'autres solutions pour sauver des vignes, pour sauver des plants, en fait, des pieds de vignes. Donc les viticulteurs sont obligés de renouveler les vignes plus souvent, mais quand c'est dangereux, il n'y a pas de débat, quoi. Il faut l'arrêter. Quand c'est pas dangereux, laissez-nous faire notre boulot.
Merci beaucoup Philippe Jouglin. On va rester sur ces mots. Laissez-nous faire votre boulot, le cri des agriculteurs que vous représentez. Vous êtes le président de la FRSEA et on parlait de ces zones de non-traitement, 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres, distance incompressible de sécurité entre les champs et les habitations qui sont donc décrétées au Journal officiel 29 décembre et mises en application au 1er janvier. Merci à vous.
Au revoir.